Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Un jour, quand Jésus se promenait à Jérusalem avec ses disciples, il leur a montré les bâtiments dans le complexe du temple. Le temple et les autres bâtiments étaient très beaux et très impressionnants. Et là, il leur a dit une chose très frappante pour eux. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cela a beaucoup étonné les disciples. Et un peu plus tard, quand ils étaient tous montés sur le mont des Oliviers, les disciples lui ont posé une question. Quand est-ce que cela devait avoir lieu? Matthieu chapitre 24, verset 1, nous présente cette scène. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur a dit, « Voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre que tout ne soit renversé. » Et là, ils ont posé la question, « Quand ?» Il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ils voulaient savoir quand était la fin du monde. Quelques 2000 ans après, nous nous posons toujours cette question. À quand la fin du monde? Quand est-ce que ce sera? Vivons-nous au temps de la fin aujourd'hui? Comment pourrions-nous savoir quand ce sera proche? Qu'est-ce que la Bible en dit? Certaines religions dans le monde ne croient pas que le monde aura une fin. Beaucoup pensent que ça passe d'un cycle à l'autre. Pendant, chez les hindous par exemple, des milliards et des milliards d'années, ça va continuer éternellement comme cela. Ils ont une vue circulaire, on peut dire, de l'histoire du monde. Mais la Bible parle d'un début, dans le commencement, et aussi d'une fin. Elle présente une vue linéaire de l'histoire, un début et une fin. Qu'est-ce que la fin du monde, d'après la Bible? Puisque là aussi, il y a des différences d'avis, de points de vue. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. À partir du verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Un temps de détresse. Un temps de détresse comme il n'en a jamais eu auparavant. Jésus a confirmé ce que Daniel avait prédit. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il a dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Si nous continuons dans Daniel chapitre 12, verset 6, nous lisons ceci. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint seront brisées. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont une secrète et scellée jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin se réfère essentiellement à une période de 3 ans et demi. C'est ce que nous venons de lire. Jésus a donné un avertissement aussi de ne pas imaginer trop tôt qu'on serait entré dans cette période du temps de la fin. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 8. Luc 21, verset 8. Là, Jésus a averti, c'est marqué qu'il répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » Donc, il ne faut pas imaginer trop tôt qu'on soit entré dans cette période de 3 ans et demi, le temps de la fin. Pas encore, pas immédiatement. Et depuis que Jésus a donné cet avertissement, il y a eu des guerres et des bruits de guerre, des soulèvements presque constamment depuis 2000 ans, depuis qu'il a prononcé ces paroles. Maintenant, entrons au vif du sujet dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous avons lu les premiers 3 versets déjà, lisons maintenant le verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et au verset 7, plusieurs traductions ajoutent des pestes. C'est dans la version Osterwald, la version Darby. Et c'est confirmé dans Luc chapitre 21, verset 11, qu'il y aura aussi des épidémies de maladies qui vont sévir. Il semble que nous soyons maintenant dans cette période, le commencement des douleurs. La persécution prophétisée n'a pas encore commencé. Nous pouvons pratiquer notre culte librement, au moins dans la plus grande partie du monde. Donc la persécution qui est prophétisée contre l'Église, ça n'a pas encore commencé. Donc nous sommes dans la période du commencement des douleurs. Repassons. Ont vu les choses que Jésus a prédit ici, comme le début des douleurs, le commencement des douleurs. Il a parlé de confusion et de déception religieuse. Il y a un faux christianisme qui a pris la place du vrai dans presque le monde entier. C'est un christianisme réchauffe le cœur, si je puis dire ainsi, qui ne demande très peu aux croyants. Vous n'avez pas à changer, repentir, mais changez pas vraiment beaucoup de comportement. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Le christianisme du monde n'exige pas beaucoup. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça c'est Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25. Mais il y a plus de monde qui prêche seulement amour, acceptation, bien-être, et en fait ça finit par être de la confusion. Sans parler de ceux qui prétendent même plus être chrétiens du tout. Et ça aussi c'est un chiffre grandissant dans l'Occident du moins. Jésus a parlé de guerre et de bruit de guerre. À travers le XXe siècle, il y a eu entre 20 et 30 guerres en cours à n'importe quel moment. J'ai fait une vérification rapide sur Internet en préparant ce sermon. Il y a au moins 13 grandes guerres qui sont en cours maintenant dans l'année 2025. Dans la Première et la Deuxième Guerre mondiale, presque 200 millions de gens ont péri. Nous pouvons regarder les guerres en Ukraine, par exemple. Il y a des guerres dans différents lieux. Il y a une grande guerre autour de Jérusalem maintenant, et nous savons que Jérusalem sera un problème jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça sera un centre de combat. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, verset 1. Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire tous ceux qui les monteront. Et j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. C'est la vérité aujourd'hui. Tous ceux qui s'immiscent dans les affaires d'Israël, la terre d'Israël, de Jérusalem, sont meurtris d'une façon ou d'une autre. Il y a cette terrible guerre en cours maintenant contre le Hamas, et ça va continuer. Les guerres et les bruits de guerre. Jésus a parlé ensuite de famine. La famine est un problème récurrent dans plusieurs régions du monde. L'Afrique et certaines parties de l'Asie en particulier subissent les famines. La Somalie, le Kenya, le Bangladesh, l'Éthiopie, l'Inde et ainsi de suite. C'est souvent dans les titres des journaux. Le taux d'infection de sida dans certaines régions de l'Afrique, comme le Swaziland, Botswana, Lesotho, Zambie, Zimbabwe, le taux d'infection de sida est entre 25 et 30% encore aujourd'hui. Il existe des médicaments maintenant qui peuvent le tenir à distance, si vous voulez, mais les gens sont quand même infectés. Dans beaucoup, dans l'avenir, à cause de ces maladies, il y aura beaucoup d'orphelins qui ne sauraient pas cultiver la terre, ce qui risque d'aggraver encore des famines. Et bien sûr, la population, surtout dans les régions les plus pauvres du monde, continue à augmenter. Au taux actuel, nous ajoutons 1 milliard de gens à la population de la Terre tous les 10 ans. La population de la Terre pourra doubler dans les prochaines 50 ans. D'où viendra la nourriture pour tous ces gens-là? C'est une question importante. Il a parlé aussi d'épidémie, de peste. On peut donner en liste toutes les maladies qui ont sévi dans le monde et ont touché plusieurs pays dans les derniers 20 à 30 ans. La grippe porcine, vous en souvenez, des épidémies, la grippe de 1918 qui a tué 100 millions de gens, et ça pourrait revenir. Nous pensons au sida qui a tué des millions de gens, le SRAS a survécu, la grippe aviaire, Covid-19 plus récemment, une souche de tuberculose résistante à plusieurs antibiotiques menace de devenir un problème grave dans les prochaines années. Le taux de mortalité serait égal au cancer du poumon. Dans son livre « Virus », l'auteur Richard Preston raconte l'histoire d'Ebola Zaïre, comme on l'a nommé cette fièvre hémorragique il y a quelques années, qui était tellement grave que le taux de mortalité était 100%. Si vous l'attrapiez, c'était fini. Ce virus transforme les cellules du corps en copie du virus. En fait, le corps, en quelque sorte, se transforme en virus. Et il raconte dans ce livre-là que le corps fond, devient liquide, finalement. La seule chose qui empêche une pandémie de cette maladie et qu'elle tue ses victimes tellement rapidement qu'elles n'ont pas le temps de... La maladie ne peut pas se propager. Ces cas de maladie se sont produits dans les jungles d'Afrique et les gens ne peuvent pas voyager très rapidement dans ces conditions-là. Donc, il y a quelques centaines de morts et puis cela s'étouffe. Les singes peuvent attraper l'Ebola. Le virus d'Ebola a été porté dans la région de Washington, la capitale des États-Unis, en 1919, par des singes qui étaient transportés pour la recherche médicale. Quand les scientifiques ont établi que les singes étaient porteurs d'Ebola, ils les ont mis en quarantaine et les ont isolés des autres singes. Mais la maladie a trouvé le moyen de se propager quand même. Les êtres humains ont été exposés également. Et on s'attendait à ce qu'il y ait un éclat de cette maladie dans la région de Washington. Peut-être par la miséricorde de Dieu, cette souche d'Ebola, qui réagit de la même manière aux anticorps des singes et des êtres humains, ne rendait pas malades les gens. On ne sait pas toujours pourquoi, d'après mes recherches. Ils ont dû détruire tous les singes. L'auteur, Laurie Garrett, dans son livre « Betrayal of Trust, la trahison de la confiance », explique comment de plus en plus les problèmes de santé ailleurs dans le monde, même l'autre bout du monde, peut devenir un problème chez tout un chacun. Même les régions les plus isolées du monde ne sont qu'à 24 heures de voyage maintenant du Canada, de Toronto, de New York, de Paris, de Genève. En 24 heures, vous pouvez presque aller de n'importe quel endroit au monde dans nos grandes villes occidentales. En 1994, il y avait une épidémie de peste bubonique en Inde. Des centaines de personnes sont décédées. Et les conditions chaotiques de l'infrastructure étaient exposées, l'infrastructure indienne. Des postes de filtrage devaient être installés dans les aéroports américains et européens pour ceux qui arrivaient de ces régions. Et moi-même, maintenant, quand je voyage en Afrique, souvent je dois passer à côté d'une caméra qui mesure la température des corps qui passent. Et s'il y a quelqu'un qui est fiévreux, on les prend à côté pour faire d'autres vérifications. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être pris de côté, isolé dans une pièce, et puis on vient m'interroger. Vous étiez où? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? Et il m'est arrivé, quand j'allais en France depuis l'Afrique, de devoir remplir les formulaires. Vous étiez assis dans quel siège, dans l'avion? Où est-ce que vous allez être pendant la prochaine semaine? Comment est-ce que pour vous contacter? Parce que le risque de contagion est très grand maintenant avec le transport aérien. On peut aller presque n'importe où et très, très rapidement. Le monde se prépare pour des épidémies et les experts les voient venir. Les livres que l'on peut lire à ce sujet-là montrent qu'ils sont sûrs qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura de grandes épidémies qui vont venir. Jésus a mentionné toutes ces choses comme des signes précurseurs de son retour et de la fin du monde. Alors, sommes-nous au temps de la fin maintenant? Revenons à Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je vais le lire maintenant dans la version d'Arbi, verset 1. En ces temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient pour le fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre de vie. Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Dans le livre « Our Final Hour », notre dernière heure, un Anglais du nom de Martin Harris, qui est cosmologiste, astronome royal du Royaume-Uni, un des scientifiques les plus respectés au monde, il a écrit qu'il pense que l'humanité a moins de 50% de chances de survivre aux prochains 80 ans. Il a écrit ce livre il y a environ 20 ans et il a dit 100 ans. Il y a 20 ans, il a dit 100 ans, ça veut dire qu'il reste 80. Il pense que l'humanité a moins de 50% de chances de survivre aux prochains 80 ans. Les découvertes scientifiques les plus importantes sont les moins prévisibles. Il y a des accidents qui qui peut arriver. Des découvertes imprévues pourraient changer le monde complètement, en très peu de temps. Il a mentionné plusieurs dangers dans ce livre, Notre dernière heure, des dangers nucléaires. Il est possible à un scientifique, même mal financé, de rassembler ce qu'il faut pour faire une arme nucléaire, surtout une bombe sale qui a très peu de puissance mais qui émane la radiation. Il a mentionné des armes biologiques. Il croit que plus d'un million mourront de bioterreur ou de bio-erreur avant, il le croyait, avant 2020. Nous sommes déjà loin de cela, mais ça pourrait arriver à n'importe quel moment. La nanotechnologie, des nanobots qui transforment la structure cellulaire de la matière. On pourrait créer des micro-organismes qui mangent toute la matière sur la Terre, qui réduirait la planète à une boule de boue. Et ça s'appelle le scénario de boule de boue. Ça, c'est la nanotechnologie. Il pourrait y avoir un désastre environnemental. Il a parlé de ça aussi. L'accélérateur de particules CERN, en Suisse, par exemple, ils font la collision de plusieurs éléments de matière, des atomes, pour comprendre les lois physiques. Mais c'est possible que ça pourrait déchaîner un désastre qui détruise la Terre. C'est une possibilité. On ne sait pas, puisque tout cela est expérimental, on ne sait pas quel pourrait être le résultat. Dans Daniel chapitre 11, verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il va avoir une guerre entre le roi du Midi et le roi du Septentrion. Et tout cela est relatif à la terre promise, à Jérusalem. Donc le roi du Septentrion sera un chef en Europe. Le roi du Midi sera un chef au sud d'Israël, et on pense que ça, c'est très certainement un chef musulman. Dans un livre qui s'intitule « La Troisième Guerre mondiale a commencé », écrit par le français Laurent Arthur Duplessis, il explique que d'après lui, la guerre entre l'islam et les démocraties occidentales a déjà commencé. Et nous voyons des attaques. Périodiquement, ce qui se passe en Israël se transforme maintenant à des heurts entre musulmans et autres, même dans les pays occidentaux, puisque nous avons permis l'entrée des millions de musulmans dans nos pays démocratiques, et ça crée des heurts, évidemment. L'islam radical se détend de plus en plus au Moyen-Orient. Les musulmans vont se réunir sous un califat. Ils ont déjà essayé en Afrique plusieurs fois. Un calife, c'est un leader suprême de la communauté islamique. Et M. Duplessis pense que cela a déjà commencé. Le mouvement est en coulisses pour le moment, mais on a déjà essayé de créer un califat. D'après lui, encore une fois, cette union arabe-musulman va s'attaquer à l'Europe et les États-Unis, et le monde pourra changer radicalement en peu de temps. Ça, c'est un autre signe précurseur du temps de la fin. Et qu'est-ce que nous devons faire au milieu de tout cela? Nous devons veiller, nous devons regarder toutes ces choses qui vont arriver, et puis nous devons nous retrouver dans Daniel chapitre 12, verset 13. Toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour un héritage à la fin des jours. Nous devons continuer de faire ce que Dieu nous dit de faire, de vivre nos vies fidèlement à la, dans l'obéissance aux instructions de l'Éternel. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 12. « Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, nous voyons approcher ce que la Bible appelle le temps de la fin. Apparemment, ce n'est pas loin. À nous de continuer de nous consacrer à l'œuvre de Dieu pour accomplir sa volonté, afin qu'il nous trouve faisant ainsi.